Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle série de podcasts consacrée aux structures de la fabrique du Bien Vieillir 44. Une fois par mois, vous allez pouvoir découvrir un peu plus une fondatrice ou un fondateur d'une des structures que compose ce collectif. L'objectif est de prendre le temps pour présenter chaque activité, revenir sur ses origines, bien comprendre ses missions actuelles, mais aussi les projets futurs, le tout sous la forme d'une discussion libre et sans filtre. Pour ce premier épisode du mois de septembre 2019, j'ai le plaisir de rencontrer Sophie Charteau, fondatrice de l'association Manou Partage. À 40 ans, cette mère de famille, qui vient d'ailleurs d'avoir son troisième enfant, félicitations, a, vous allez l'entendre, un emploi du temps bien rempli, entre vie personnelle, vie professionnelle, mais aussi vie associative. C'est d'ailleurs avec son petit Elliot dans les bras que cette rencontre a eu lieu, le tout dans le nouveau local de l'association situé au 13 rue Gustave Eiffel à Nantes. Je vous laisse écouter et découvrir cette interview. Très bonne écoute à tous. Bonjour Sophie.
Bonjour
tu es la fondatrice de Manou Partage.
Oui.
Un point aussi très important quand même dans la vie, tu es mère de famille.
Oui.
D'ailleurs, on le voit, on peut le vérifier aujourd'hui, puisque tu as eu la naissance de ton troisième enfant.
Oui.
C'est ça.
Oui,
qui est juste à tes côtés aujourd'hui.
Oui.
Félicitations.
Merci.
Est-ce que d'ailleurs, c'est difficile ou pas de concilier vie personnelle et vie professionnelle?
Et vie associative?
Et vie associative, du coup. T'as quelques astuces, toi, de ton côté, pour essayer que ça se passe au mieux dans la vie?
Bah, être ultra motivé, l'envie, avoir la pêche, et bah, essayer de... C'est une question d'organisation, hein, concrètement. Enfin, clairement, moi, depuis 6 ans sur Manou Partage, j'y travaillais surtout le soir, le week-end. Et c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup, beaucoup dessus et je n'ai pas compté mes heures. Et bien souvent, je terminais mes journées, était 1h, 2h du mat, pour continuer à se lever à 6h le lendemain pour aller au boulot. Mais je savais que c'était important, qu'il y a un besoin sur le territoire par rapport aux actions de cet asso. Et du coup, en fait, ce qui motive et ce qui permet de maintenir cette dynamique, cette envie, c'est bah, les regards des enfants, des papy-mamies, quand on les met en lien, on sait que c'est bénéfique. On sait aussi, bah, depuis la création, on a mis en lien 27 familles. Et c'est vrai que 27 familles avec 27 papy-mamies. Et la toute première mise en lien, bah, ce sont des personnes qui se voient toujours. Et du coup, ça, c'est très motivant, en fait. Ça fait plaisir. Et du coup, on se dit qu'on ne fait pas ça pour rien, même si on fait beaucoup d'heures, même si c'est bénévole pour le moment. Ça a un sens. Enfin, moi, je fonctionne comme ça, mais après, tout le monde fonctionne à sa façon.
Faire quelque chose, finalement, qui nous plaise, qui a du sens,
oui.
Ça permet effectivement de...
Ça démultiplie les forces,
ouais.
L'énergie.
Voilà.
Mais il y a des fois où je suis crevée, mais c'est vrai que c'est chaud, hein, c'est clair, d'avoir la vie de famille, le boulot, l'asso. Mais ça peut être aussi une source encore d'énergie. C'est génial de pouvoir justement... Bah, quelque part, plus tard, ce petit bout-là, Elliot, quand je lui raconterai un petit peu, bah là, il est avec moi, il a 2 mois, il est déjà avec moi sur le terrain. Et donc, du coup, c'est vrai, ça peut être assez intéressant pour les enfants, bah, de voir un petit peu le parcours. C'est sûr que ce n'est pas un parcours classique, en fait, concrètement. Mais c'est très intéressant, c'est riche de sens.
Et je crois que ta fille, notamment, qui a quel âge, rappelle-moi ?
Elle a 13 ans.
13 ans aujourd'hui, en septembre 2019. Et donc... Tu nous as dit à la dernière réunion qu'elle allait prendre un peu une responsabilité aussi.
Oui, elle fait partie du conseil d'administration de l'association. En fait, c'est un conseil d'administration intergénérationnel. Donc, elle a voulu s'investir. C'est pas moi qui lui ai demandé. Hein. Elle est déjà investie au sein de la commune de Rosay, on habite Rosay. Elle fait partie du conseil municipal des jeunes. Elle a travaillé à la construction de ce conseil municipal. Et elle y travaille très régulièrement au quotidien. Donc du coup, voilà, elle avait envie aussi de s'investir dans l'association parce qu'elle connaît depuis 6 ans, elle aussi, elle est baignée dans l'aventure Manou Partage. Donc elle avait envie de voir d'un petit peu plus près, en coulisses, comment ça s'organise tout ça.
Finalement, on retrouve là aussi une transmission.
Oui, oui.
De génération en génération.
Oui, de l'engagement citoyen, de vouloir agir sur le territoire, vouloir apporter des solutions et... essayer d'apporter sa pierre à l'édifice, les petits colibris, les petits colibris, ça démarre dans le nid aussi.
Alors, pour venir à présent aux origines de Manou Partage, donc sans tout dévoiler, d'après ce que je connais, c'est tiré de ton enseignement personnel, d'une histoire personnelle qui t'est vraiment arrivée.
Oui, oui.
Donc, quand tu es arrivé à Rosay, c'était en 2010, tu avais 2 enfants.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé et les enseignements que ça t'a apporté?
Oui, alors quand on est arrivé en 2010 sur Zec, mes deux enfants, mes deux grands, eh bien, à l'époque, je vivais seule avec mes deux enfants, on arrivait sur le quartier Château, et donc, comme quand on arrive dans un nouveau quartier, on va à la rencontre de ses voisins, et nous, on a rencontré notre petite voisine qui était juste à côté, petite mamie qui vivait seule chez elle, et tout de suite, le courant est bien passé entre nous quatre, et c'est vrai qu'on se voyait régulièrement, beaucoup d'échanges. C'est une mamie qui a dédié sa vie aux enfants parce qu'elle était famille d'accueil. Et donc beaucoup de choses à transmettre, notamment en termes d'éducation, d'écoute, d'approche auprès des enfants. Donc c'est vrai que c'était très riche pour moi et pour les enfants aussi, parce qu'elle avait plein d'histoires à raconter, tout son vécu. C'était très, très enrichissant pour nous trois. Et puis elle, en fait, quand on arrivait, elle nous disait toujours qu'on était son rayon de soleil. Et c'était vraiment un moment très privilégié entre nous. Et d'ailleurs, mes enfants l'ont surnommé Manou. C'est pour ça que l'association s'appelle Manou Partage. C'est vraiment pour lui rendre hommage. Malheureusement, depuis la création de l'association, Manou est décédé. Mais je sais que c'est quelque chose qui lui aurait beaucoup plu, cette association-là. Et d'ailleurs, je suis en lien avec sa fille et en lien avec des enfants qui étaient au sein de son foyer quand elle était famille d'accueil. Donc, tous nous disent qu'ils sont ravis que ça puisse exister, parce que vraiment, ça reflète bien l'engagement qu'elle a pu avoir auprès des enfants et sa bienveillance. Et
c'est important, tu es restée en contact avec...
Oui.
Enfin, tu es en contact la fille de
Manou. Ah oui, pour moi, c'était important. Je lui ai demandé l'autorisation à sa fille s'il m'était possible de faire part de mon expérience avec... Ça me semblait normal. Tout ça se passe en toute transparence et puis ça se passe très bien. Donc, cette belle relation qui a pu naître avec Manou m'a fait prendre conscience que l'isolement était vraiment très important auprès des seniors, mais également aussi auprès des familles, parce que dans le quartier Château, là où on habitait à l'époque, quand on regarde les chiffres, 50% de familles sont monoparentales et 44% des plus de 75 ans vivent seuls à leur domicile. Alors quand on regarde ces chiffres et quand on regarde un petit peu plus localement, mais sur les différents quartiers dits prioritaires sur l'agglomération nantaise, ces chiffres-là sont les mêmes aussi dans les autres quartiers, Alvec, Ranzay, Bellevue. Et puis quand on regarde au niveau national, il y a des chiffres qui font assez peur au niveau du suicide des seniors aussi, qui est dû malheureusement à un isolement où les seniors se retrouvent seuls, ils finissent leur vie seuls chez eux et plus personne du tout ne prend des nouvelles d'eux. Enfin, c'est triste. Je me suis dit, en fait, en regardant ça, l'expérience avec Manou et le fait de regarder ces chiffres, je me suis dit, pourquoi pas essayer de proposer une solution qui permette à ces générations-là de se rapprocher.
Ouais. Ton expérience personnelle, tu t'es dit de l'élargir à un public, à une population plus large. Oui. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des grands-parents qui sont isolés, comme tu l'as très bien dit.
Oui.
Et puis à la fois des familles avec des enfants qui, eux, alors pour des raisons diverses, n'ont plus leurs grands-parents à côté d'eux. Mm-hmm. C'est ça en fait.
L'objectif, c'est de permettre à des enfants qui ne sont pas en contact avec leurs grands-parents naturels d'être mis en lien avec des papy-mamies de cœur. Et vraiment pour favoriser la transmission, c'est l'un des objectifs, favoriser la transmission, permettre à chacun d'avoir des nouveaux repères, même côté enfant et côté senior finalement, parce que même s'ils sont âgés, ils ont besoin aussi d'avoir des repères dans leur vie, des objectifs aussi, qu'ils se sentent toujours acteurs de la vie, de la société. Voilà, et c'est permettre une extension du cercle familial dans ces familles, c'est important. Et aussi une extension du réseau social des uns des autres.
Et donc tout ça, tu as créé ça finalement entre l'histoire qui t'est arrivée, à ton arrivée à Rezé, et puis le début de Manou Partage. Il me semble que c'était en 2013 que ça s'est vraiment...
Oui, tout à fait. On a fait les premières communications presse en 2013, la première mise en lien en octobre 2013.
Il y a une deuxième mission importante dans l'association qui est liée aux EHPAD.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste cette deuxième mission ?
Oui. Alors, depuis 2015, en fait, on s'est aussi intéressé à ce qui se passait au sein des établissements d'accueil des personnes âgées, donc les EHPAD, les maisons de retraite, les résidences seniors. Et donc, on était à leur rencontre, notamment un EHPAD sur Rezé, l'EHPAD Orpea, le Clos de l'île Massé. Donc, on leur a proposé, en fait, de venir à la rencontre des résidents avec les enfants bénéficiaires de la première mission de l'association. Eh bien, on leur a proposé de venir une fois par trimestre à leur rencontre en proposant différents ateliers. Et ce sont des ateliers qui sont proposés par les bénéficiaires de l'association, par les bénévoles, et aussi on fait appel à des intervenants extérieurs, Par exemple, on a travaillé dernièrement avec la compagnie Le Milieu d'Or, on travaille toujours avec eux d'ailleurs, autour du théâtre intergénérationnel. Donc ça, c'est intéressant. Donc on a réalisé différentes sessions, éditions des ateliers Manou avec eux.
Voilà, les ateliers Manou, c'est dans le cadre des ateliers.
C'est lorsqu'on vient dans les résidences, dans les EHPAD.
D'accord.
Voilà. Donc on signe une convention avec l'EHPAD et puis on fait intervenir différentes structures.
Et vous êtes en lien avec pas mal d'EHPAD déjà ou c'est...
Donc là, on a deux conventions de signer, l'un avec Rezé, l'autre avec Nantes, à Corian, le Bois Robillard, quartier d'Oulon, sur Nantes. Donc pareil, on fait les mêmes actions, c'est une fois par trimestre. On est sollicité par d'autres structures. Comme jusqu'à maintenant, on était en format bénévolat et on travaille dessus le soir, le week-end. Du coup, on n'a pas eu vraiment l'opportunité de développer davantage. Mais là, étant donné qu'on a une opportunité, on en parlera après.
Oui.
Donc du coup, tout ça, ça va pouvoir évoluer. Mais au-delà des ateliers Manou que l'on propose entre les bénéficiaires de la première mission et ces deux EHPAD, on développe aussi des projets pédagogiques annuels entre des écoles, enfin des écoles, ça peut être aussi des associations, en tout cas des structures en lien avec le jeune public et les structures, les établissements en lien avec les seniors, des résidences d'accueil des personnes âgées. Et donc là, justement, il y a un projet qui démarre là en octobre, là, 2019, entre l'école Château Sud à Rezé, une classe de CE1 qui va venir à la rencontre des résidents de l'EHPAD Orpea. Et donc
d'accord.
Là, autour d'un projet, autour du temps, qui va s'intéresser au temps, on va remonter en arrière en 1940. En fait, l'idée, c'est de travailler avec les résidents autour comment est-ce qu'ils vivaient leur scolarité, au même âge que les enfants qui vont les rencontrer, et comment ça se passait au niveau des transports, est-ce qu'il y avait la cantine à leur école. Enfin voilà, c'est vraiment de s'intéresser un petit peu à comment ça se passait à leur époque, comme disent souvent les enfants, comment c'était à ton époque. Et bien voilà, c'est ça la question qu'ils vont leur poser. Et en fait, les résidents reviendront sur les bancs de l'école pour pouvoir travailler en binôme avec les élèves. Donc on va faire des binômes élèves-résidents et ils vont pouvoir travailler sur ces thématiques-là en classe. Et il y aura différents temps de jeu, enfin différents temps de l'atelier qui seront organisés.
Et ça, c'est un tout nouveau projet.
Voilà,
ça sera une première pour vous.
C'est une première pour la partie d'accord. Projet pédagogique, mais on a d'autres projets en cours de travail, en fait.
L'idée aussi de ce podcast, c'est de prendre un peu le temps pour revenir sur certaines choses.
Ouais.
Si on revient aux origines, au début de l'association, comment ça s'est passé pour toi les débuts? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Et comment tu as réussi à franchir un peu les étapes et à grandir en fait au fur et à mesure, au fil du temps?
Donc moi, au niveau au démarrage de Manou Partage, il faut savoir que j'étais déjà très investie dans le milieu associatif. J'ai toujours eu un pied dans l'associatif. Donc à l'époque, j'étais déjà secrétaire d'une association qui s'appelle l'Amicale Laïque Château Sud, donc en lien avec la Fédération des Amicales Laïques, la FAL 44. En fait, déjà donc, en lien avec beaucoup de familles sur le quartier Château à Rezé. Et du coup, donc, c'est aussi pour ça que j'ai pu vraiment me rendre compte, observer cet isolement qu'il y a aussi côté famille, qu'elle soit monoparentale ou famille classique. Et du coup, voilà, donc j'avais déjà ce pied-là dans l'associatif. Du coup, je connaissais déjà un petit peu la partie réseautage. Il y a beaucoup de choses quand même à savoir, enfin, des personnes à connaître pour pouvoir faire avancer un projet associatif. Puis bon, l'expérience, en fait, sur le terrain déjà, avec les habitants.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été le plus difficile?
En fait, le plus difficile, c'est la communication, c'est de se faire connaître. Donc c'est pour ça, c'est là où c'est intéressant, c'est important d'avoir du réseau, en fait, quand on lance une idée comme celle-ci. Donc c'est pour ça, moi, tout de suite, je suis allée à la rencontre de différentes structures qui faisaient déjà du lien, enfin du parrainage de proximité, telles que Parrain par Mille, il y a Marrainez-vous. Donc justement, depuis maintenant, on s'est monté en réseau, on fait partie du réseau des acteurs du parrainage de proximité. Donc ça, c'est en lien avec le département, on est soutenu par le département dans ce cadre-là. On fait partie des 4 associations au niveau départemental à proposer ce parrainage de proximité. Nous,
d'accord.
On a de la spécificité senior, intergénérationnelle.
Donc le plus difficile, c'est se faire connaître, comme tu
c'est
dis.
C'est de se faire connaître, voilà. Parce que nous, on s'adresse notamment à des seniors qui sont seuls à domicile. Ces seniors, bien souvent, n'ont pas accès à tout ce qui est numérique,
forcément,
internet.
Ouais.
Donc en fait, c'est surtout dans eux, ils vont pouvoir faire connaissance avec notre structure à travers les journaux. Voilà. Mmh. Donc il faut être très actif au niveau communication externe, au niveau des médias. Essayer d'utiliser le maximum d'outils auxquels font appel la cible de nos missions, en fait, hein, les papilles, les amis de la société, enfin, qui peut être susceptible d'être intéressé par une mise en lien.
C'est vrai qu'il y a une difficulté, puisque quelqu'un d'isolé, bon, bah, c'est pas évident de le toucher.
Bah oui, c'est
d'aller
ça.
D'aller le rencontrer.
Exactement. Et identifier les personnes isolées, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a la loi Liberté informatique qui interdit les communes de diffuser les coordonnées. Alors ça, c'est quelque chose, bon, qu'on a pu échanger avec différents élus de la ville de Rezé. Malheureusement, on n'a pas pu faire bouger les choses. Nous, on n'a pas une démarche commerciale, on a une démarche au contraire de bien-être. On veut leur apporter du bien-être à ces personnes-là. Donc je pense qu'il y aurait possibilité à un moment de voir les choses d'un autre angle. Certes, il y a cette loi-là, mais je pense que ce serait possible de faire en sorte qu'on puisse vraiment toucher ces personnes-là sans avoir autant de difficultés. Et c'est surtout que c'est quand même important, quoi. Le lien social, c'est quelque chose de très important.
Et voilà, en fonction du sujet qui est quand même important,
ah oui,
donc, faudrait s'adapter finalement.
Adapter cette loi.
Parce aller vers quelqu'un pour des bonnes raisons. En fait.
Bah oui, tout à fait.
C'est vrai qu'il faudrait faire la part des choses.
Bah oui, parce que depuis la canicule de 2000, je sais plus de quelle année là, les communes sont dans l'obligation en fait de collecter les coordonnées des seniors isolés qui n'ont pas du tout de contact familial. Et donc du coup, ils ont toutes ces informations là. Donc ce serait intéressant de les partager avec des structures qui ont une démarche bienveillante.
Et à l'inverse, puisque là on parlait il y a quelques instants sur les difficultés, en tout cas notamment se faire connaître, quelles sont les grandes joies que ça t'apporte, les moments forts que tu as vécu grâce à cette association
finalement. Ah oui, il y a des grandes joies. Bah, c'est sûr que si on s'était arrêté au tout premier, souvent, voilà, il peut y avoir des... Il y a toujours des bonnes raisons pour arrêter pour ne pas faire les choses. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des bonnes raisons aussi pour faire les choses, parce que lorsqu'on fait des mises en lien, lorsqu'on met en œuvre une mise en lien entre une famille, entre des enfants et des grands-parents de cœur, ce moment-là, il est vraiment magique. Et c'est juste magique, oui. En fait, quand on voit cette mise en lien qui évolue, qui se développe dans le temps, et que, eh bien, on se dit qu'on ne perd pas notre temps et que c'est au contraire, ça, c'est une, ça donne un sens, comme on disait tout à l'heure.
Une fois qu'une grand-mère, un papy ou une mamie est en lien avec une famille et des enfants, forcément, vous, la grosse partie du travail, c'est de les mettre en lien.
Oui.
Mais après. Il y a quand même un contact.
Ah oui, on est toujours en fait, il y a un bénévole référent qui est défini pour chaque mise en lien. Et donc, on recontacte régulièrement. On essaie de faire ça une fois par trimestre pour s'assurer que tout se passe bien. Et voilà. Et en parallèle, on a lancé aussi en 2016 les Moments Manou, ensemble. Donc là, ça se passe le dernier dimanche du mois sur le quartier Château, le Rigolo Square à Rezé, et sur le quartier Ranzay, sur le square du Ranzay, sur Nantes-Erdre, voilà, côté Beaugeoire. Et bien là, on propose en fait aux bénéficiaires de l'association, les familles, donc les parents, les enfants, les seniors et les habitants de ces quartiers-là, de proposer des ateliers sur lesquels ils sont vraiment, ce sont eux les acteurs, ils organisent, ils proposent, ils animent ces ateliers. Bien sûr, les bénévoles de l'association sont là pour accompagner. Et en fait, ce sont des ateliers qui permettent aux uns aux autres de se rencontrer. Et il y a des familles ou des papy-mamies qui ne sont pas encore en lien. Eux, ils vont pouvoir rencontrer des papy-mamies qui sont, eux, en lien avec des familles. Et du coup, ça leur permet d'identifier, de visualiser clairement qu'est-ce qu'il en est de cet engagement de cœur. Parce que, je n'ai pas précisé, Manou Partage, sur la première mission, ce n'est pas un mode de garde. C'est vraiment une mise en lien entre des personnes qui souhaitent passer des moments privilégiés entre elles, avec la transmission. Il y a aussi de l'entraide, une solidarité derrière tout ça. Et voilà, ce n'est pas un mode de garde. Et donc, en fait, du coup, sur les moments Manou, ça permet vraiment de tisser un réseau social et de permettre, on est dans des quartiers prioritaires où, justement, les chiffres sont là, où il y a beaucoup d'isolement. Et bien,
de favoriser les rencontres.
On favorise les rencontres lors de ces temps fort, les moments Manou. Et donc ça se passe le dernier dimanche du mois de 15h à 17h, Rigolo Square et Square du Ranzay.
Est-ce que tu vois une évolution sur les demandes, alors de par le fait que vous, ça y est, maintenant vous êtes installé, on va parler du nouveau local aussi, mais comment tu vois les choses sur justement les grands-parents isolés? Est-ce qu'il y en a quand même de plus en plus qui viennent vous voir, à quelle proportion? Et puis de l'autre côté, les familles avec des enfants qui seraient intéressées par ce concept, Voilà, est-ce que ça prend au fur et à mesure du temps? Quelle est l'évolution en fait des deux côtés de cette action-là?
En fait, l'évolution, il y a beaucoup de familles qui viennent nous voir. Il y a davantage de familles aujourd'hui qui sont en attente. Par exemple, si on prend ces chiffres-là, comme ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on a 7 familles en attente d'une mise en lien, donc sur des communes autour de l'agglomération nantaise. Et côté senior, aujourd'hui, on a 4 mamies et un papy en attente d'une mise en lien. Quand je dis papy-mamie, c'est pas péjoratif. Mmh. voilà, 4, c'est, donc ça fait 5 seniors en attente. En fait, c'est équivalent, les demandes, on va dire. Mais en fait, dès que l'on a un article dans la presse, tout de suite, on a des appels. Ça, c'est... quand on a des appels, on sait que c'est suite à un article. D'accord. Et quand on fait des temps forts, les moments Manou, c'est là aussi où on va rencontrer des... Et c'est, en fait, les moments Manou sont très importants. C'est une fois par mois, ça permet vraiment... Voilà, c'est le rendez-vous mensuel. Les uns les autres, ceux qui veulent avoir des informations, ils savent où nous trouver. Mmh. Du coup, on peut échanger. Ça permet vraiment d'avoir... Puis on est à l'extérieur des murs, on est vraiment au plus près des habitants de ces quartiers-là aussi, au plus près des personnes qui peuvent être intéressées.
Quel conseil tu donnerais aux personnes qui se disent « Tiens, je pense à un tel, je pense à telle personne, ça peut l'intéresser » pour se mettre en relation avec l'asso. Mmh. Donc là, on va en parler aussi, il y a un nouveau local.
Oui.
C'est une belle étape.
Ces personnes-là, elles peuvent soit donner nos coordonnées, c'est mon numéro de portable, je peux le donner là, 06 85 71 18 74. Il y a un mail aussi, contact@manou-6partage avec un s.org. Et pas hésiter à venir nous voir aussi, parce qu'on a eu la chance, l'opportunité que la ville de Nantes en fait, nous ouvre ses portes. On a maintenant, c'est installé depuis le 1er septembre au sein du quartier Alvec, enfin, quartier Ranzel, on est à la frontière entre les deux. Et donc maintenant, on a une implantation. Maintenant, on a vraiment un lieu où vous pouvez venir nous voir, échanger avec nous. C'est un lieu ouvert, c'est un espace de vie sociale. Chacun peut y venir, y passer un petit peu de temps. C'est ouvert et donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Donc c'est au 13 rue Gustave Eiffel à Nantes.
Voilà, 13 rue Gustave Eiffel.
Tout à fait. Et donc on est sur le parc Gustave Eiffel.
Ça, c'est quelque chose que tu attendais depuis un petit moment, d'avoir un local et d'avoir... quelque chose de physique
en
pour
fait, oui, concrètement,
installer l'asso.
Oui, en fait, le quartier cœur de l'association, c'est le quartier Château à Rezé. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on était en échange, un an et demi qu'on était en échange avec la ville de Rezé pour pouvoir imaginer avoir un local mutualisé, même un local mutualisé avec d'autres associations au sein de ce quartier-là. Et malheureusement, il n'y avait pas de possibilité sur ce quartier. Du coup, suite à différents échanges avec des acteurs de la ville de Nantes, et notamment dans le cadre du grand débat sur la longévité en début 2019, on nous a proposé de nous installer pour le développement d'autres structures au sein de ce quartier-là, Ranzé-Alvec. Donc du coup, c'est une belle opportunité sur laquelle on a tout de suite bondi, parce que c'est important, et il y a beaucoup d'associations qui sont à la recherche de locaux. C'est un gage de confiance, le fait qu'on nous donne cette opportunité-là. Ça veut dire que le travail qu'on a pu effectuer ces 6 dernières années, bien là, c'est vraiment...
Ça porte ses fruits.
Ça porte ses fruits, voilà, c'est ça, ça porte ses fruits.
Et là, c'est un soutien de la mairie, de Nantes Métropole.
C'est un soutien de la ville de Nantes.
La ville de Nantes.
Nantes Métropole, le CCAS. Mmh. Et voilà, donc c'est avec le bailleur social LNH que l'on a pu aussi avoir ce local. Donc c'est un local de façon temporaire, voilà. Si on est sur Alvec. Pendant un an et demi, en attendant des travaux de mise en normes d'accessibilité d'un local qui est sur le quartier Ranzé. L'objectif, c'est vraiment de développer au maximum sur Ranzé, car il n'y a pas de structure autour du lien social dans ce quartier-là.
Est-ce qu'il est ouvert tous les jours, le local
ou... Oui, on est là tous les jours, actuellement de 9h30 jusqu'à 16h30.
Donc oui, tu voulais rajouter quand même une chose importante, effectivement.
Avoir un local, c'est là le point stratégique pour pouvoir avoir, par exemple, un service civique. T'as pas de local, pas de service civique.
D'accord.
Enfin, c'est le local, en fait, c'est aussi un gage de crédibilité, de confiance, de sérieux. En fait, quand on veut déposer des dossiers de demande de soutien financier ou quand on rencontre des structures autour du mécénat, eh bien, hop, tout de suite, le fait d'avoir une implantation, d'avoir un lieu, eh bien, ça, le regard change tout de suite. C'est vraiment un point très important.
Tu vas inaugurer forcément ces nouveaux locaux. Tu peux nous rappeler du coup la date, ce qui va se passer.
On a intitulé ça la crémaillère du local de Manou Partage. En fait, ça va se passer le 9 octobre. En fait, cet événement-là va s'intègre aussi dans le cadre de la semaine bleue. L'objectif, c'est de présenter, donc profiter de ce temps de fête pour marquer le coup du fait qu'on s'installe ici, qu'on s'implante ici. C'est de présenter aux habitants, aux acteurs locaux, ce que l'on fait, les actions de l'association, les différentes missions, à travers des témoignages, des différents ateliers qui seront proposés. Et donc ça va démarrer à 14h le 9 octobre. Et donc différents ateliers pour découvrir Manu Partage. Et il y aura aussi une partie, en fait, une œuvre collective qui sera réalisée avec les habitants, les partenaires, les bénéficiaires, toutes les personnes qui seront présentes. On va en fait réaliser la déco, en fait, de la vitrine du local. Donc ça, c'est intéressant.
C'est ça, ah oui.
Pour vraiment faire en sorte que les habitants, en fait, s'approprient ce local, que lorsqu'ils passent devant le local, ben voilà, tout de suite, il y a un lien, il y a un souvenir qui va se remémorer.
Donc mercredi 9 octobre, ici, donc parc Gustave Eiffel à Nantes.
Tout à fait.
Je regarde en même temps ton flyer, hein, accès tram ligne 1, forcément.
Direction La Beaujoire.
Ça va durer un petit moment, puisque tu mets même le soir. Hein, il y
tout
aura des, de 14h jusqu'à...
Jusqu'à 21h30.
Jusqu'à environ. 21h30.
Donc oui, tout à fait. Donc l'après-midi sera dédié à des petits ateliers de découverte de Manu Partage. Il y aura aussi une chorale éphémère intergénérationnelle qui va être orchestrée, animée par Mélanie Launay, qui fait partie du duo. Je ne sais pas si vous connaissez ce duo, magnifique duo, Monsieur et Madame. Ce sont des personnes extraordinaires. Donc là, en fait, ce sera une chorale qui sera ouverte. C'est le type de chorale qu'on a mis en place dans un EHPAD, dans l'EHPAD de Corian, à Doulon, quartier Doulon à Nantes. Donc,
une chorale intergénérationnelle.
Tout à fait. Tout à fait. Donc là, il y aura des résidents de trois EHPAD. Donc les deux EHPAD avec lesquels on a une convention et l'EHPAD du quartier Ranzé. On est déjà en contact avec eux. On va travailler ensemble à l'avenir. Et du coup, on les invite à venir... Sur ce petit événement. Et puis, voilà, on a une mamie qui va venir proposer une initiation à l'aquarelle, mamie de l'association, différents témoignages, famille senior. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'on va aussi proposer à la diffusion en continu, dans notre local, en fait, la diffusion en fait, d'un film qui s'appelle « Un fil à tisser ». C'est un film qui met en avant, en fait, l'engagement citoyen pour répondre à l'isolement des aînés. Après, de 18 à 19, on proposera un petit apéro qui sera offert, il y aura différentes prises de parole. Et à partir de 19h, des concerts seront proposés, voilà, différents univers musicaux.
Qui auront lieu sur la
place Gustave Eiffel. Et donc, voilà ce qu'on propose pour vraiment marquer notre arrivée sur le quartier Ranzé-Alvec.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose toi-même par rapport à ton association avant de passer à la fabrique du bien vieillir ?
Oui, et eh bien Manu Partage, c'est un projet collectif et solidaire. L'ADN, c'est vraiment le faire ensemble. Et c'est vraiment un projet qui est porté par des habitants, par des citoyens. Initialement, moi j'étais bien du quartier Château, à Rosé. Et puis derrière, quand on a lancé ce projet, on a réussi à fédérer autour de nous. Autour de ce projet-là. Donc, c'est vrai que du coup, maintenant, on est au niveau de l'équipe, on est une dizaine, dont 8 membres du conseil d'administration. Et on a la chance d'être, donc c'est un conseil d'administration, comme je disais tout à l'heure, intergénérationnel, de 13 à 90 ans aujourd'hui. Et on est passé aussi en gouvernance partagée, donc ça, c'est intéressant. Il n'y a pas de président, pas d'étiquette président, trésorier, secrétaire chez Manu Partage. On est en co-représentation de l'association. On est tous, il n'y a pas de système ascendant. Ça, c'est important. Et c'est vraiment une association ouverte. Toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Et surtout les personnes qui seraient motivées, qui auraient envie d'un
pour
petit
rejoindre
peu
l'équipe.
Pour rejoindre l'équipe, elles sont les bienvenues parce qu'on est toujours en recherche de bénévoles comme tout asso. Et là, étant donné qu'en plus on est en train de se développer, donc on n'a pas précisé. Donc donc là maintenant, notre siège se situe dans le local au niveau du quartier Alvec-Ranzé à Nantes. Donc là, c'est le siège. On va développer nos actions auprès des acteurs locaux et des habitants de ce quartier-là. Mais l'idée, c'est qu'on maintient toujours nos actions sur Rosé. Donc on a toujours une antenne sur Rosé. Et là, aujourd'hui, on souhaite essaimer le concept de l'association, c'est-à-dire qu'on a différentes communes qui ont fait appel à nous. Aujourd'hui, la commune de Vertoux, Saint-Sébastien-sur-Loire et autres. Ces communes-là souhaitent que l'on puisse développer le concept de l'association sur leur commune. Et donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, c'est des choses qui vont démarrer sur 2020. Donc,
c'est l'avenir de Manu Partage.
Voilà, c'est d'essaimer aussi, développer sur Nantes, essaimer sur d'autres communes, monter des antennes et puis voilà, développer tout ça sur le département.
Plein
et
de simplement projets.
Prochainement en 2020, oui. Là on est sur le point d'avoir l'agrément pour pouvoir accueillir des services civiques. Donc à partir de janvier 2020, on ouvrira un ou deux postes en service civique sur
Nantes. Ça, c'est important.
Ça, c'est très important.
Oui.
Et là, toujours dans la transmission finalement aussi, l'engagement.
Parce que toi-même, tu es la fondatrice.
Oui.
Ton statut actuel ?
Moi, aujourd'hui, je suis bénévole. Je suis co-représentante de l'association. Aujourd'hui, on est trois co-représentantes. Et puis, je suis bénévole dans l'asso. Et l'objectif, c'est qu'en 2020, je puisse en devenir salariée de l'association et devenir la coordinatrice du développement de Manu Partage avec la casquette salariée, cette fois-ci.
Et tu voulais aussi aborder un dernier sujet, non ?
Oui, tout à fait. Dans le cadre justement des actions que nous menons dans les EHPAD, nous avons un projet qui nous tient à cœur. C'est la mise en place, en fait, suite à une action que nous avons déjà menée avec la compagnie Le Milieu d'Or, une compagnie de théâtre. On a réalisé différentes éditions des ateliers Manu à l'EHPAD Orpea, où là, on a proposé du théâtre intergénérationnel entre les enfants de l'asso, issus de la première mission de mise en lien, et en fait les résidents de cet EHPAD, et notamment des résidents qui sont au niveau de l'unité protégée, qui accueille des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives, notamment des maladies autour d'Alzheimer. Et en fait, on s'est aperçu que ces personnes étaient très en demande, avaient beaucoup accroché à ces projets de théâtre intergénérationnel. Et il y a eu des déclics qui se sont réalisés avec les enfants. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de proposer des séances de mini-stages théâtre intergénérationnel sur chaque vacances scolaires, voilà, sur 2 jours, et essayer de faire quelque chose de régulier. Et du coup, donc ça, on souhaite démarrer ça fin octobre. Et en fait, ça nécessite bien sûr un coût. Il y a un coût financier derrière, parce que les personnes qui vont animer ce mini-stage, donc il y aura 4 sessions, sont des professionnels. C'est leur métier, ce sont des artistes professionnels au niveau du théâtre. Et donc, du coup, il y a un coût. On va lancer une campagne de financement participatif avec la plateforme Hello Asso. Et ça va démarrer courant de cette semaine du 23 septembre. Si vous souhaitez soutenir ce projet, faire en sorte qu'il ait lieu, qu'il voit le jour, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc sur contact@manu-partage.org, on pourra vous envoyer le lien pour réaliser le don.
Merci beaucoup Sophie pour cette discussion autour de Manu Partage. Ça me tenait à cœur aussi de parler en cette fin d'interview sur la fabrique du bien vieillir.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire comment est née cette idée de créer ce collectif de structures autour du bien vieillir ? Comment est née cette idée ?
En fait, cette idée, je l'avais depuis plusieurs mois, c'est pas pour dire années, parce que ça fait déjà 6 ans que nous on existe. En fait, on est très isolés lorsqu'on travaille sur cette thématique-là, finalement, parce qu'on voit bien qu'il y a plusieurs acteurs sur la thématique, mais finalement, on travaille chacun de notre côté. Et je trouvais qu'il y avait un manque de synergie entre nous tous. Et alors que c'était dommage parce que finalement on est tous complémentaires.
Fin de midi.
Oui, mais on est tout. Voilà, c'est vrai que c'est dommage de pas mettre en commun toute cette intelligence collective autour du bien vieillir, ça me semble indispensable. Et surtout que c'est en perpétuelle évolution. Hein. Le bien vieillir, les seigneurs d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les seigneurs de demain, donc c'est important d'être en proactivité sur ce sujet-là. Et du coup, je trouve que voilà, tous ensemble, on peut vraiment proposer des nouvelles solutions et développer des choses intéressantes sur le territoire.
C'est très récent, hein, finalement.
Oui,
ça s'est lancé à quelle période ?
En fait, fin 2018, en décembre 2018, on a rencontré Loki Aura, parce que nous, chez Manu Partage, j'aime beaucoup tout ce qui est coopératif. Je le disais tout à l'heure, c'est l'ADN, vraiment le faire ensemble. C'est aussi le faire ensemble avec les autres acteurs locaux sur le terrain. Et du coup, c'est vrai qu'on est habitué à monter des projets toujours en lien avec d'autres structures. Et du coup, dans cette même dynamique, on a rencontré Loki Aura en décembre 2018. Loki Aura, c'est une structure qui démarre tout juste là. Ils proposent en fait une solution de colocation senior. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'innovant.
Et on aura l'occasion de faire un podcast avec eux aussi.
Tout à fait.
Parce que l'idée, c'est vraiment de faire cette interview avec chacune des structures. On peut peut-être les citer. Aujourd'hui, il y en a 8. Citer donc Benevolt, Chauve Citron, Hippocampe Family, Le Temps pour Toi, Loki Aura, tu viens d'en parler, votre second souffle, ma nous partage bien sûr, et puis la structure que je représente, les souvenirs partagés, parce qu'on a rejoint le collectif il n'y a pas longtemps. Si on revient aux origines, donc toi c'est la rencontre avec Loki Ora.
Tout à fait. Alors en fait, avec Loki Ora, donc on se rencontrait simplement pour se présenter mutuellement nos actions et voir s'il pouvait y avoir des choses que l'on pouvait faire ensemble. Et en discutant, donc je me rendais compte que en face de moi j'avais une personne qui avait donc c'est Anne-Laure qui elle aussi avait plein de projets, plein d'envie, plein de dynamisme. On voyait bien qu'on était toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et à un moment je lui dis écoute, moi je trouve que ça pourrait être intéressant d'imaginer quelque chose en commun, de travailler ensemble sur des projets en commun, mais vraiment de le faire régulièrement. Et donc du coup je lui parle de cette idée de collectif. Et du coup, toutes les deux, on s'est rendu compte qu'on avait des contacts avec beaucoup de structures. Et donc, du coup, on est parti du principe qu'on allait lancer cette idée de collectif auprès de ces structures-là. Donc moi, à l'époque, je connaissais Bénévolt, Habitat Humanisme, Le Temps pour Toi aussi. Elle, de son côté, elle connaissait les autres structures. Et du coup, on s'est dit, on lance une invitation, on fait une réunion, un temps de rencontre, l'échange début 2019 aux Écosoli, et on voit si ça prend et on présente les choses. Et puis, finalement, suite à ce temps d'échange, les différents interlocuteurs, beaucoup de personnes étaient présentes, beaucoup de structures étaient présentes, peut-être une dizaine de structures qui étaient représentées, et toutes les structures ont répondu présent, à l'exception de une ou deux qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps à allouer à ce collectif-là. Donc du coup, c'est comme ça que ça a démarré, tout début 2019.
Il n'y a pas de structure juridique à part
aujourd'hui,
entière,
non.
Mais il y a quand même des valeurs à partager.
Tout à fait.
C'est ça.
L'audace, l'engagement, la bienveillance auprès des seniors. Parce que là, on est vraiment sur des thématiques qui sont sensibles. Quand même, là, il est question de personnes, des personnes âgées qui, pour la plupart, ont des parcours pas très simples. Et du coup, nous, on est là pour leur apporter des solutions pour... qu'ils se sentent, pour qu'ils puissent s'épanouir et vivre leur vieillesse de la meilleure des façons possibles à travers différentes solutions qui sont apportées par les structures du collectif.
Sur le nom, la fabrique du bien vieillir.
Oui.
Est-ce que tu sais qui a eu l'idée de
nommer ? Alors là, on a fait un brainstorming virtuel.
D'accord.
Ça n'a pas été simple. Donc, très bien, tout le monde a pu donner son avis et du coup... la fabrique, ça sonnait bien. Et puis, parce que finalement, on est toujours en mode actif, on construit, on est toujours en mode construction. Donc, du coup, on fabrique toutes et tous des choses autour du bien vieillir. Donc, c'est parti comme ça.
En octobre, il va y avoir la semaine bleue où le collectif va faire une animation, une marche.
Du 7 au 13 octobre, c'est la semaine bleue. Donc, ça, c'est un événement au niveau national qui propose en fait de mettre en lumière. En fait, c'est un événement qui est au niveau national, qui est porté par chaque région, qui propose en fait de mettre en lumière les structures qui, au quotidien, toute l'année, proposent des actions pour favoriser le bien vieillir. Et bien, sur cette semaine-là, l'idée, c'est de mettre en valeur les différentes actions menées. Et du coup, on a 7 jours pour présenter les différentes actions. Et donc, nous, avec la Fabrique du bien vieillir, ce sera le samedi 12 octobre, à partir de 15h, ça va se passer au niveau du local de l'association Manu Partage, dont on a parlé juste avant, et donc au 13 rue Gustave Eiffel à Nantes, sur le parc Gustave Eiffel. Et bien là, on va proposer une marche comptée. En fait, on va faire appel à un artiste qui fait partie d'une des structures de l'association, qui va venir en fait raconter l'histoire de Pierre. Pierre, 90 ans. En fait, on raconte son parcours, donc il fait une petite rétroactivité, il propose, Pierre il présente en fait son parcours à partir de ses 58 ans, lorsqu'il perd son travail, il présente un petit peu les différentes structures auxquelles il a pu faire appel pour justement pouvoir sortir un peu la tête de l'eau, parce que lorsqu'on se retrouve sans emploi à 58 ans, c'est très vite la descente aux enfers, on peut se retrouver très rapidement à la rue, et donc il y a beaucoup de structures, dont celles qui font partie du collectif, qui peuvent apporter des solutions pour justement éviter cette dégringolade. Tout au long de la marche, on va compter le parcours de Pierre, et ça va être intéressant, et avec à chaque fois une ponctuée d'une présentation de chaque structure, avec la présence bien sûr des les fondateurs de ces structures et les bénéficiaires de ces différentes structures. Et là, justement, on s'associe au centre, au CCAS de Nantes dans le cadre de cette marche, parce que le CCAS avait aussi un projet de marche, et du coup, étant donné qu'on est en lien avec eux, eh bien, on a décidé de mutualiser cette marche. Donc, ce qui est intéressant, parce qu'on va aussi travailler avec des partenaires du CCAS. Donc, en fait, tout ça, ça fait boule de neige, et on va à nouveau pouvoir se rencontrer les uns les autres. Donc, ça, c'est important, les échanges d'expériences pour pouvoir avancer. C'est important, cette solidarité qu'il peut y avoir entre nos structures. Travailler intelligemment autour de cette thématique du bien vieillir.
Pour terminer, peut-être, comment tu le verrais idéalement se développer ce collectif pour toi ?
Idéalement, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'il y ait un maximum de facettes, en fait, de tout ce qui touche autour de la longévité, des longévités, parce qu'il y a plusieurs longévités, il n'y en a pas qu'une. Chaque seigneur vit le vieillissement à sa façon. Il n'y a pas qu'une façon de vieillir. Et donc, du coup, vraiment faire en sorte de pouvoir vraiment proposer une palette de solutions qui répondent vraiment à toutes les attentes, les besoins et aux besoins des seniors d'aujourd'hui et de demain. Donc, ce serait intéressant que toutes ces structures-là, on puisse vraiment avancer main dans la main et travailler ensemble sur cette thématique et proposer toutes ces solutions-là, et qu'on puisse demain aussi être entendu par les institutions et être soutenu lorsqu'on souhaite développer une nouvelle action, et bien qu'on soit soutenu et écouté. C'est déjà le cas, hein, plusieurs des entités qui font partie de ce collectif sont soutenues. Enfin, déjà, je te trouve, en quelques mois, on a déjà fait quand même pas mal de choses. Dans le cadre du grand débat longévité, on a donc réalisé un cahier d'acteurs.
Oui.
Donc ce cahier d'acteurs, en fait, justement, c'était l'acte fondateur du collectif. Donc là, on a pu justement rédiger l'histoire de Pierre, donc la personne dont on parlait tout à l'heure, avec la réalisation d'un sketch note qui a été réalisé par Nathalie Papey, une designer qui a réalisé ce sketch note et qui est vraiment très parlant, qui met vraiment en valeur chacune des structures. Et ça, c'est important, en fait. Voilà, en fait, chacun apporte sa pierre à l'édifice, et en fait, du coup, comme ça, ça permet de toucher un maximum de personnes.
Merci encore, Sophie, d'avoir joué le jeu pour ce premier épisode de ces podcasts. On se retrouve très vite le mois prochain pour une toute nouvelle rencontre avec un autre acteur de la Fabrique du Bien Vieillir 44. Je vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet lafabriquedubienvieillir44.fr. Une toute dernière précision, je suis moi-même Loïc de Chabot, fondateur des Souvenirs Partagés, une structure qui a intégré depuis le mois de juin dernier ce collectif. À bientôt pour le prochain podcast, et surtout longue vie à la Fabrique du Bien Vieillir.